Dans la chambre de mon fils, son drap, l'oreiller, son odeur, ses vêtements, ses jouets, les cahiers sur son bureau. L'enfance à l'odeur des champs de blé, je suis ivre d'Erwan. Pink Floyd, The Wall, je danse, électrisé, je veux ma révolution, déplacer mes cellules, faire claquer mes os, tourner mon sang, changer mon visage, je veux ma jeunesse. J'attends quelqu'un, l'inconnu, je crois en la préhistoire d'une histoire, à ce qui existe avant d'exister, à l'empreinte des pas inaccomplis, dont le chemin est tracé, réservé. Prise par la musique, en sueur, je me sens un peu sale de la jouissance de Brahim. Nous sommes uniques et nous ne sommes rien. We don't need no education, we don't need no thought control.
France Inter. Julia Foyce, unique en son genre.
Celle qui danse, c'est Madame Akli, celle qui écrit, c'est vous, Nina Bouraoui, bonsoir.
Bonsoir.
L'album de Pink Floyd sort en 1979, vous avez 12 ans, vous vivez à ce moment-là en Algérie, mais plus pour longtemps. Quand vous l'entendez à nouveau, ce morceau, quelles images, quelles saveurs, quelles odeurs vous viennent?
Ah, c'est toujours les mêmes, parce que c'est un morceau que je réécoute assez régulièrement, parce qu'il donne une force, hein, c'est étrange, il y a quelque chose, c'est une révolution hein, dans cette chanson, et c'est toujours la même chose. Moi, j'écoutais beaucoup de musique quand j'étais petite, justement, sur les hauteurs d'Alger, avec cet électrophone de marque. Je me souviens très bien la marque, je me souviens très bien des enceintes. Et c'est un souvenir de chaleur, les baies ouvertes, au loin la mer. On vit au sixième étage et on domine une forêt d'eucalyptus qui d'ailleurs abrite l'ambassade de France. Notre résidence est limitrophe, enfin partage un parc avec l'ambassade de France. Donc moi qui suis à moitié française par ma mère, mais cette mère quand même qui est assez rejetée en Algérie et qui me sent algérienne, mais d'une algérianité étrange traversée par la France et en plus avec un genre un peu spécial parce que je suis à la fois une fille et un garçon et à la fois pas du tout cela. Cette chanson me ressemble, je trouve, et quand je suis petite, elle me raconte mon histoire, bizarrement, parce qu'il y a le cœur des enfants. Je n'ai pas vu encore le film. Je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Je suis encore trop petite, mais je sais qu'il est question des enfants, d'éducation et de déconstruction.
Vous quittez l'Algérie à 14 ans pour ne plus jamais y revenir et pour toujours la retrouver dans vos livres. C'est là, à Hydra, sur les hauteurs d'Alger, que se joue aussi Satisfaction, votre dernier roman. Roman d'une insatisfaction générale, profonde, douloureuse. Si Madame Akli danse sur ce morceau des Pink Floyd, c'est pour oublier qu'elle s'est trompée de vie, ivre de son fils qui, de toute façon, lui échappera, ivre de désir pour une femme qu'elle s'empêchera d'aimer, engluée dans la vie domestique, noyée dans des vêtements trop larges, trop grands, disparaissant à elle-même et aux autres. Comme au fond, toutes les femmes, ou presque, ou comme presque toutes vos héroïnes finalement. Pourquoi cet enfermement, cette thématique de la résignation, du renoncement?
C'est vrai, presque toutes mes héroïnes. Pourquoi? Peut-être parce que j'ai grandi en Algérie et que l'Algérie n'est pas, à l'époque en tous les cas, maintenant je ne peux plus parler au nom de l'Algérie puisque je n'y suis pas retournée depuis très longtemps, donc je ne pourrais pas me permettre de parler des femmes et des hommes en Algérie. Je ne sais plus trop comment ils s'entendent. D'ailleurs, pour moi, l'Algérie n'est plus mon pays, mais c'est mon enfance. Donc c'est autre chose. Je crois que j'ai beaucoup regardé ces femmes dans les années 70, qu'elles soient algériennes ou françaises. Je me souviens que le corps dans la ville était compliqué à vivre pour elles. Je me souviens d'avoir vu ma mère de nombreuses fois soit touchée, soit agressée, soit malmenée. Je me souviens de mon propre emprisonnement, mais qui était différent. Ce n'était pas la souffrance du regard des hommes, c'était plutôt la souffrance du regard des adultes qui ne comprenaient pas celle que j'étais. Mmh. Et je ne comprenais pas enfant comment des adultes pouvaient rejeter et briser des amitiés parce que je demeurais parfois infréquentable. Alors je crois que cette solitude, ce mal-être n'existe plus chez moi, parce que j'ai heureusement grandi, vieilli, et puis on apprend à s'aimer, il faut toute une vie pour cela, mais c'est ça qui est intéressant aussi, d'aimer les autres, mais aussi de s'aimer soi. Mais il me reste des sédiments, des espèces d'empreintes de cette solitude-là, dans mon corps, en moi, et je crois que l'écriture, elle passe aussi par là. Peut-être que je fais sans doute, certainement, toujours la narration de cet emprisonnement intérieur.
Emprisonnement dont vous sortez aussi par l'écriture, dont vous sortez peu à peu. Vous nous le raconterez dans cette émission, comment l'écriture, les mots, qu'ils soient écrits ou prononcés dans le cabinet d'un psy, vous ont petit à petit libéré et rendu peut-être plus fréquentable à quelques détails près. Si vous aviez gardé quelques tocs, quelques manies, quelques gestes du quotidien qui vous rendaient plus transgressive, ce serait quoi, par exemple? Votre mauvais genre à vous, c'est quoi?
Je crois que, alors ça m'arrive de moins en moins, mais c'est, alors est-ce que c'est un mauvais genre? Bon, moi j'ai eu beaucoup de tocs, j'ai même écrit un livre sur ça, mais j'ai quand même un travers, alors moi qui ne me dérange pas parce que je comprends, mais c'est le regard des autres qui est, je peux être atteinte parfois d'une sorte de crise de mutisme.
Ah oui.
En société, lorsque je suis mal à l'aise, c'est peut-être aussi encore des sédiments d'une grande timidité.
Et ça peut durer longtemps?
Oui, je peux me refermer quelques minutes ou un peu plus. C'est-à-dire que je n'ai plus accès au langage,
ouais.
Je n'ai plus accès à la parole, je n'arrive plus à communiquer avec ceux qui m'entourent. Alors, je ne sais pas, est-ce que ça arrive quand je m'ennuie? Est-ce que ça arrive quand je suis gênée? Est-ce que ça arrive quand soudain je me sens peut-être impressionnée? Est-ce que ça arrive quand je suis troublée aussi, peut-être? Je ne sais pas. Il peut m'arriver parfois de sombrer dans une forme de silence. Et pour ceux qui me connaissent bien, c'est un peu gênant.
Pas ce soir, s'il vous plaît.
Non, mais jamais. Justement, au contraire, là, je suis très à l'aise. La parole est ouverte et le langage est une sorte de tapis volant. Là, j'ai de la chance. Mais non, ça peut arriver vraiment. Vraiment, quand je ne connais pas, quand tout d'un coup il y a trop de monde et trop d'interactions entre les autres, oui. et tout d'un coup je me sens exclue, mais je m'exclus toute seule, hein. Oui. Personne ne m'exclut. Mais franchement, c'est de plus en plus rare. En revanche, enfant, c'était très souvent, et souvent quand mes parents étaient invités quelque part avec ma sœur, oui. On disait la grande, mais pas la petite.
Oui, quand même.
Donc, je restais à la maison, j'étais punie. Et parce que ça m'était, de la part d'un enfant, ça m'était mal à l'aise, parce qu'en plus, j'ai tendance à fixer les autres, peut-être en leur appelant au secours, hein, en disant « aidez-moi, je n'arrive pas à sortir de ce mutisme-là ». Et donc j'étais assez inquiétante, mais franchement ça m'arrive plus trop. Oui.
Et si je vous mets face à vous-même, de vous à vous, là, que je vous tends ce miroir, si vous prenez le temps de vous regarder...
Déjà je vais regarder, comme mes cheveux ont pris la pluie, je me dis qu'ils ont un peu ondulé. Et je me dis que je suis encore un peu bronzée, ça va.
Mm-hmm. C'est le soleil de...
C'est le soleil, je suis très souvent à Aix, parce que je vis entre Paris et Aix.
Ouais.
Puisque la personne que j'aime vit à Aix, donc je suis très souvent dans le sud, mais je suis quand même aussi très souvent à Paris, parce que Paris est ma terre d'ancrage, et donc je suis souvent dans les trains, souvent au bord de la mer. Je crois que plus on vieillit, plus on a besoin de se rapprocher de ses racines. Mmh. La Méditerranée me manquait de plus en plus, donc mais mon ancrage dans le sud équilibre celui de Paris. Je trouve que ces deux villes vont bien ensemble.
Il y a dans votre regard en tout cas une lueur, une flamme dont on ne sait pas tout à fait si elle réchauffe ou si elle brûle. Il y a dans la voix une douceur, dans le phrasé une délicatesse, dans les mots une âpreté, une rugosité parfois pour dire la violence autant que l'amour. Alors sans doute la violence de l'amour, de ces amours qui embrasent, étreignent, asphyxient parfois, et cette bagarre à l'intérieur de soi pour reprendre un peu l'air, lutte à mort pour retrouver la paix, ce combat chaque jour mené, et puis au bout peut-être la liberté.
Je ne sais plus rien. Une douce musique revient. Elle arrive de très loin. Ah, ma chaloupe, ma ta copine sous le ciel cabinet.
Liberté, liberté.
Sur France Inter, les pieds et l'enfant sacré Teil, la musique de la langue berbère. Joli mélange, un pont comme vous, Nina Bouraoui, au-dessus de la Méditerranée. Vous le parcourez dans les deux sens et en 20 livres vendus dans le monde entier. Avec cette façon de chercher sans arrêt et qui vous êtes et qui on est, nous. Identité, sexualité, binarité, intimité, virilité, féminité, ces questions-là, on les retrouve bien sûr dans Satisfaction, votre dernier roman qui pourrait être en quelque sorte la somme de tous les autres, de toutes les pièces de votre vie. Unique en votre genre, vous êtes notre invité.
Unique en son genre.
Votre histoire, c'est aussi celle de la France et de l'Algérie avec ses zones d'ombre, ses blessures et ses dénis, comme ici.
Ces hommes parqués les bras levés derrière des barrières métalliques, ce sont quelques-uns des 25 000 Algériens français qui se sont rassemblés dans les rues de Paris en cette soirée du 17 octobre 61. Quelques instants plus tôt, à l'appel du FLN, ils manifestaient pacifiquement pour protester contre le couvre-feu qui leur est imposé. Ces images ne le montrent pas, mais la répression policière est très dure. Voilà ce que confirme un rapport commandé il y a 6 mois par le gouvernement. D'après un bilan officiel de l'époque, cette répression aurait fait 7 morts. Des centaines, affirmait le FLN. Aujourd'hui, les auteurs du rapport estiment que le nombre des victimes se chiffre en dizaines, minorant les estimations de certains chercheurs.
On commémorait cette année, Nina Bouraoui, les 60 ans de cette terrible nuit. On l'a vu et on l'a entendu à quel point tout reste encore à dire et à raconter. Votre histoire commence à peu près à cette époque-là. Hein. C'est dans ce contexte-là que vos parents se rencontrent. Qui sont-ils ? Et dans quelles conditions a lieu cette rencontre ?
Ils se rencontrent à Rennes, à la faculté de droit et d'économie de Rennes. Alors mon père est ce qu'on appelait à l'époque un Français, un jeune Français musulman. En fait, il est algérien. Lui, il part il vit à Djigel, qui est à l'est d'Alger, à 400 km. Il fait ses études à Constantine. Il est assez brillant. Son grand frère lui part au maquis. Ils veulent rejoindre. Et sa mère dit non, pas de fils. Et en fait, il est un peu exfiltré et on l'envoie poursuivre ses études en France. Mmh. Alors, il atterrit à Vannes par hasard. Il a son bac. Et puis, le proviseur de Vannes lui dit voilà, il faut aller à Rennes. Il y a une faculté qui est bien. Donc, il appelle le doyen de la fac de Rennes. Il dit voilà, un jeune Français musulman, il vient d'Algérie. Il est intéressant. Surnommé mon père l'oiseau rare. Donc mon père arrive dans cette faculté à Rennes. Il a une petite chambre à la cité universitaire. Très vite, il fréquente des Algériens, des Africains, des Français aussi. C'est un très bon élève. Souvent, il a les premiers prix. Et ma mère est une jeune bourgeoise rennaise. Ses deux parents, chirurgien-dentiste. Elle fait du droit. Et je crois qu'ils se rencontrent lors d'une soirée ou lors peut-être du bal de l'université. Ils tombent fous amoureux. Nous sommes en 1960. Mmh. Et puis, ils décident de se marier. Donc, mes grands-parents français ont très peur, ne supportent pas, chassent ma mère de la maison familiale. Elle s'installe dans cette petite chambre d'étudiant avec mon père. Mon père devient docteur en économie. Ils ont ma sœur en 62. Mmh. En 62, l'Algérie est indépendante et ils décident de partir, de s'y installer avec beaucoup d'espérance, beaucoup d'espoir. Le pays est libre, certes marqué par une guerre terrible, mais qui a marqué les deux camps, autant les Algériens aussi que les Français. Il y avait aussi des Français qui étaient des amis des Algériens et qui ont perdu des frères et des sœurs en quittant ce pays très vite. Voilà, ma mère va vivre jusqu'en 1981 en Algérie. Elle dit qu'elle a donné sa jeunesse à ce pays. Alors, et moi, je nais en 67.
Vous naissez en 67, un 31 juillet à minuit 30, hein, décidément à mi-chemin entre le jour et la nuit, entre une moitié de l'année et l'autre. Est-ce que cette famille binationale est mieux vue là-bas que dans la bourgeoisie rennaise?
C'est très étrange. Les comportements sont différents. Alors, mes grands-parents algériens ont vraiment très bien accueilli ma mère. Mmh. Ils l'ont surnommée la Suédoise parce qu'elle est très blonde avec des yeux bleus. Il n'y a pas eu de rejet ou de racisme. Je crois que mes grands-parents français, au-delà, est-ce que c'était du racisme? Je crois qu'il y avait beaucoup de peur, d'incompréhension. Ouais. beaucoup d'ignorance. On se faisait un monde de ce pays-là. C'était aussi en pleine guerre, il faut pas l'oublier. Ma mère a souffert plutôt d'un racisme, je dirais, de masse, c'est-à-dire dans la rue. Les Français étaient partis, elle faisait partie de ces rares Français qui faisaient le chemin inverse. Elle est tombée amoureuse de mon père, mais elle est tombée amoureuse aussi d'une terre, oui, d'un pays, d'un peuple. Et elle souffrait d'un racisme assez tabou qui était ce racisme anti-français. Mais elle n'a jamais cédé, elle n'a jamais cessé de s'habiller de façon très féminine et sexy. Elle a travaillé, elle avait beaucoup d'amis algériens. C'est un pays qu'elle a vraiment aimé, elle a lutté. Je crois qu'elle nous a appris l'esprit de tolérance, malgré parfois la forme de violence qu'elle a subie, parce que je pense que c'était très difficile pour elle. Mais ma mère est bretonne et très têtue, et je crois qu'elle ne pouvait pas abdiquer. Il y avait aussi une sorte de défi lancé à sa famille française. Elle était partie, elle résisterait.
Et puis chez vous, il y a de l'amour, beaucoup d'amour qui circule autant que les livres. D'ailleurs, vos parents vous mettent le monde à portée de main. Votre mère, les week-ends, vous embarque votre sœur et vous dans sa vieille guimbarde découvrir le désert, la mer, les montagnes de l'Atlas. Vous les goûtez, ces balades, vous l'adorez, vous aussi, ce pays, musique à fond, Pink Floyd dans l'autoradio, mais aussi les Stones, Eagles, encore Alain Souchon, Serge Gainsbourg et tant d'autres. Et puis, le soir, on rentre à la maison et on s'écroule devant la télé. Chut, c'est l'heure des dossiers de l'écran. On parle politique chez vous, même avec deux gamines ?
Oui, beaucoup. Ouais. On ne fait pas trop attention d'ailleurs à nous. Il y a beaucoup de soirées, mes parents ont beaucoup d'amis. Une amie qui travaille en souterrain, soi-disant, pour les Black Panthers. il y a des poètes, il y a des intellectuels. Il y a tout un petit monde qui est assez naïf et idéaliste, qui ne se rend pas trop compte de ce qui est en train d'arriver en Algérie. Je le raconte justement dans le livre, c'est-à-dire que les années 70 sont des années charnières. Tout se prépare, en fait. La décennie noire est en train vraiment de se préparer. Le peuple considère qu'on lui a peut-être un petit peu volé sa victoire, qu'il n'en profite pas assez, qu'il a donné son corps. Ils ont été nombreux, ces Algériens morts pendant la guerre d'Algérie. Et finalement, un peuple déçu se retourne, quels que soient les peuples, se retourne vers les extrêmes. C'est un classique. Et commence comme ça, il y a des petits signes, il y a parfois des disparitions, il y a parfois des milices qui vérifient si ces couples mixtes ne sont pas des espions, si l'homme algérien fête Noël, si on boit de l'alcool à la maison. Et puis tout d'un coup, comme ça, poussent comme des fleurs étranges ces jeunes femmes ornées du hijab. Ça n'existait pas en Algérie. Je me souviens des amis de mon père disaient « Mais non, ce n'est pas l'Iran, l'Algérie n'est pas ainsi, c'est pas vrai. » Et finalement, tout doucement, se prépare la décennie noire des années 90.
Et vous grandissez dans cette atmosphère-là, il y a cette peur sourde que vous sentez, que vous racontez dans le livre, et puis il y a en même temps une grande insouciance et une folle liberté. Vous êtes en tout cas assez libre chez vous pour pouvoir dire à votre mère que vous voulez changer de prénom. Vous avez 4 ans, vous voulez vous appeler Mohamed comme votre oncle. Vous l'écriviez d'ailleurs dans Garçon manqué. Est-ce que vous auriez préféré être un garçon ou est-ce que vous vous sentiez garçon ?
Mais je ne sais pas trop qui étais-je. C'était pas vraiment être un garçon, mais mon identité de fille ne me convenait pas. Je pense que s'inscrivant dans un pays assez viril et assez masculin, elle devait me déranger. Je pense que j'avais compris que la force était de l'autre côté, du côté des hommes. Et puis surtout, à l'intérieur de mon corps, je ne voyais pas, je ne ressentais pas... dans l'attente et dans le regard des autres, je ne pouvais pas donner ce que les autres attendaient. Je n'étais pas cette petite fille. J'avais en effet un corps de petite fille, mais je ne pouvais pas avoir les stigmates de la petite fille, porter des robes, avoir les cheveux longs, jouer à la poupée. C'est très cliché ce que je dis, mais en tous les cas, dans les années 70, une petite fille, on la voyait ainsi. Ouais. Et alors, ce n'était pas non plus être un garçon. Je crois que j'occupais un genre intermédiaire. Peut-être aujourd'hui, on dirait que c'est juste la liberté, hein, la liberté d'être, la liberté de pouvoir choisir comment on va s'identifier en tant que petite fille, qu'il y a peut-être plusieurs façons d'occuper sa féminité et pas une seule. Ou à l'époque, moi j'avais une grande sœur qui était très féminine, donc le modèle de la féminité, c'était ma sœur et ma mère, et je me sentais très éloignée d'elle. Et c'est vrai que dans cette famille-là, il y avait la liberté, comme mes parents étaient un couple mixte et qu'ils devaient gérer, eux, alors mon père pas dans sa famille, mais je pense plutôt dans sa carrière, dans sa profession. Il a été dit à un instant cas d'avoir épousé une Française avait pu peut-être ralentir sa progression dans son travail, peut-être. Le racisme, il était plutôt de ce côté-là, pas dans sa famille. Et ma mère, elle, qui souffrait d'un rejet de ses parents, je crois que mes parents ne pouvaient pas rejeter une enfant qui se débaptisait, ouais, et qui avait décidé de prendre le prénom de son oncle que j'aimais beaucoup. Il était très cultivé, il disait Georges Bataille et il s'appelait Mohamed.
Mais alors, comment vous vivez ce corps qui se transforme à l'adolescence et le fait que, autant vous avez pu vous couper les cheveux, vous avez pu jeter vos robes et mettre et porter des Levi's, mais à un moment donné, il y a des formes qui arrivent et qui se dessinent. Qu'est-ce qui se passe pour vous à ce moment-là ?
Alors peut-être que peut-être que cette nature m'a aidée. J'ai gardé l'empreinte de celle que j'étais, ce genre étrange qui pencherait plutôt vers la masculinité dans ma façon de... Pas ma façon d'être, pas ma façon de penser, mais en tous les cas, peut-être des manières de réagir, je ne sais pas, mais en tous les cas, ce côté-là, ce garçon que j'ai été, il n'a pas disparu. Mais quand ma féminité est arrivée, je ne l'ai pas rejetée. Au contraire, j'ai trouvé ça une sorte de métamorphose qui m'arrangeait bien, parce que j'allais me cacher derrière elle, parce que j'allais pouvoir, de façon certainement assez perverse, vivre tous les désirs de ce garçon, mais dans une enveloppe de fille. C'est un peu étrange à dire, mais j'ai bien accueilli ce corps qui se transformait, les cheveux qui poussaient. J'étais plutôt contente, mais sans jamais trahir celle ou celui que j'étais finalement. Après, ça veut dire occuper son désir et devenir, en tous les cas, pas devenir parce que je l'étais, mais acter mon homosexualité.
Dans votre chambre, il y a un poster de Fouriot, David Bowie sur l'affiche, l'androgynie placardée au mur, en VHS, la boum, pour vous consoler. Et la musique, encore et toujours, pour décoller. Le premier album que vous achetez s'appelle La Notée, La Notée. Au micro, Étienne Dao, né à Oran, grandi à Rennes, sans le savoir, vous vous êtes croisés. Pour vous, c'est un peu l'été de tous les dangers, l'été des chagrins, l'été de l'amour aussi. C'était de votre première histoire d'amour. Elle s'appelle Diane. Elle sera plus tard l'une des héroïnes de La Vie Heureuse. À l'époque, qui est-elle pour vous avant que vous la mettiez sur le papier?
C'est mon idole. C'est celle qui, tout d'un coup, révèle aussi ma douceur. Parce que lorsqu'on a grandi dans un pays violent, on absorbe la violence. La violence, ça n'est pas uniquement dans la rue, elle s'introduit dans votre foyer. On ne peut pas faire autrement, je crois. Et le fait de tomber amoureuse d'une femme et d'une jeune fille à l'époque, parce qu'on était adolescente, hein, on avait 15 ans, m'a raccordé à une douceur que je ne soupçonnais pas en moi. Je pensais que j'étais plutôt que colère, rage, ressentiment parfois. Je criais tout le temps, j'avais toujours la voix cassée. D'ailleurs, je gardais toujours cette voix étrange parce que je criais tant. Ma mère disait toujours « mais arrête de crier ». Et en fait, quand je tombe vraiment amoureuse, je ne crie plus. Et je... Oui, et l'océan de douceur, je nage dans un océan de douceur, même si c'est très difficile, hein, parce que tout d'un coup, je sais que je suis différente. L'objet de mon désir n'est pas totalement comme moi, mais joue beaucoup avec moi. A bien compris qu'il y avait un attachement qui était bien plus que de l'amitié. Donc je me retrouve, en plus c'était, je me souviens, c'était une élève qui avait nos âges, mais qui en faisait beaucoup plus. Sa mère voyageait beaucoup, elle se retrouvait souvent seule dans sa maison le week-end, et j'allais dormir dans sa maison. Et pour moi c'était un royaume, c'était un château. Je voulais plus en sortir. Et j'ai appris aussi la souffrance de l'amour, Et je me souviens, pour la séduire, je lui avais dit, tu sais, un jour je serai écrivain. Et elle m'avait dit, mais écris-moi quelque chose. Et je me souviens, j'avais plagié une prof de français qui avait sorti un livre, Nikki Goltz, ma prof de français en troisième. Elle m'a dit, ah, mais c'est très bien, t'as beaucoup de talent. Et donc après, je me suis dit, mais c'est horrible, je suis prise au piège. Il faut absolument que j'écrive parce que maintenant, elle a tellement cru que je pouvais être un écrivain. Et donc, j'étais très jeune un peu. Voilà, mais un peu bête.
Au contraire, folle d'intuition et de lucidité.
Oui, peut-être.
Et c'est fou comme chez vous, comme chez nous tous, mais chez vous plus encore, comme tout avance par contraire, parce que vous découvrez l'amour en même temps que la souffrance. Et puis au même moment où vous trouvez un petit peu qui vous êtes, vous devez quitter l'Algérie. C'est cet été-là que votre mère vous dit, en fait, on ne rentrera pas. Vous laissez tous vos souvenirs là-bas, tous vos effets personnels, vous, comme ça. Brutalement, cet été-là, à Saint-Malo, vous apprenez que vous n'y retournerez pas. Et puis, après Alger, ce sera Zurich, et puis Dubaï, et puis Paris. Mais toujours les étés à Saint-Malo, et toujours le cœur en Algérie, avec l'immense Férouz dans les bagages. Bienvenue sur France Inter, si vous nous rejoignez. Baitek de Férouz, c'est votre choix musical, Nina Bouraoui. C'est par la musique et la musique des mots que vous retournez toujours en Algérie. Mais en fait, jamais vraiment, vous n'y avez jamais remis un pied. Pourquoi ?
Oui, c'est vrai, je suis partie en 81 et encore, je ne suis pas partie. J'étais en vacances et ma mère m'a dit on ne va pas rentrer. Elle avait archi raison, je crois qu'elle avait une vision intuitive de la politique qui était en train de s'opérer. Elle avait une vision du bain de sang, c'est ce qu'elle disait. Je crois qu'elle a su avant tout le monde, 81. Pourtant, les émeutes ont eu en 88. Et après, il y a eu ce qu'on sait, la décennie noire. Moi, je ne suis pas retournée. Pourtant, j'ai eu mille occasions. Nous avons toujours notre appartement familial. Mon père s'y rend assez régulièrement. Je pourrais l'accompagner. En fait, non. J'étais invitée très souvent au Salon du Livre d'Alger. J'étais très souvent invitée dans le cadre de mon travail. Et finalement, je me suis dit, j'aimerais y retourner de façon anonyme et avec tous ceux à qui j'ai raconté cette Algérie, ce que j'aime, mes proches. J'aimerais y retourner aussi avec ma sœur et ses enfants. J'aimerais que nous partions à plusieurs. Pas pour me rassurer, mais parce que je crois que c'est important de marcher dans les pas de ses souvenirs avec ceux qu'on aime. Et l'Algérie, cette enfance me constitue tellement, elle est tellement un socle, mais qui est aussi une légende. Moi, j'ai réinventé mon Algérie, j'ai assez conscience de ça.
C'est le pouvoir des
mots. Oui, j'ai conscience. Alors, certainement, je serais certainement déçue, ou peut-être pas déçue, je ne retrouverai peut-être pas ce que je cherche. Mais il est important pour moi d'y retourner pour clore le fantasme que j'ai d'avoir laissé un double qui aurait grandi dans mon dos à mon insu. J'aimerais bien retrouver cette Yasmina, Mohamed ou Nina, en tous les cas, cette personne-là qui a commencé à grandir, qui est partie à 14 ans. Et puis quand on part à 14 ans, c'est là où on commence à aimer, à désirer. C'était un âge très important pour moi. Donc il me manque 14 ans dans ma biographie, j'aimerais bien aller les revisiter. Mais je crois que j'ai eu peur aussi. Je suis pas retournée en Algérie. J'ai eu peur de ma réaction. J'ai eu peur de mes larmes. J'ai eu peur. Je sais que ce sera une expérience très intense. Je sais aussi que ce pourrait être un livre très intense. Je le fais pas dans cet intérêt-là, mais je ne suis pas dissociable de mes livres. Mes livres sont tellement mon prolongement, même mes fictions. Je crois que ce serait aussi pour l'écrivain que je suis très intéressant d'y retourner.
On y retourne avec vous, de livre en livre, et chaque livre épouse les étapes de votre vie en croisant ce qu'il faut de fiction et de réalité, de souvenirs mêlés, inventés. Nina Bouraoui, ce soir, on emprunte vos pas. Vous êtes sur France Inter.
France Inter, unique en son genre.
On vous a donc laissé amoureuse et plagieuse.
Ah oui, quelle honte.
À 18 ans, le bac en poche, vous venez à Paris pour étudier le droit. Enfin ça, c'est le jour parce que la nuit, vous plongez dans le milieu lesbien et vous écumez les boîtes de nuit, double culture et cette fois double vie. Vous cherchez quoi à ce moment-là?
Je cherche, je crois, à savoir qui je suis. J'ai souvent dit que j'avais plusieurs nationalités, hein. Enfin plusieurs cultures, pas nationalité. Je suis de nationalité française, mais j'ai un passeport algérien aussi, mais je me sens vraiment française, ça fait très longtemps que je vis en France. Et j'ai souvent dit que j'avais cette culture algérienne, cette culture française et cette culture homosexuelle, et peut-être aussi la culture d'une femme. Donc voilà, j'ai les quatre espèces de quatuors, et je crois qu'il faut absolument... à cette époque, j'ai 18 ans, je dois vivre vraiment, ne plus aller vers des personnes qui sont pas comme moi, en fait. Parce que c'est très dur, ça, c'est la méprise.
C'est ce qui se passait à chaque fois, c'est vous?
Oui, à chaque fois, il y avait une sorte de méprise, ou alors il y avait, je voulais plus être le cobaye, ou le terrain d'expérimentation, et à chaque fois, on me quittait pour un garçon. C'était une trahison, c'était, et en plus, j'étais entourée de garçons qui m'adoraient. Moi, je les adorais, mais c'était des amis. C'était pas des fiancés, je pouvais pas, c'était pas des amoureux. Donc un jour, j'achète le Pariscope à l'époque, et à la fin du Pariscope, dans les pages, je crois, Art et Spectacle, dans Cabaret, je crois, je vois le Katmandou, ouais. Club réservé aux femmes, rue du Vieux-Colombier. Moi, ça tombe bien, j'habite à côté, j'habite rue Notre-Dame-des-Champs, un petit appartement avec ma sœur. Et donc, dès que ma sœur est endormie, je fais le mur et je pars dans cet endroit tenu par Eloula Perrin, qui était vraiment une femme qui a fait beaucoup pour les femmes homosexuelles et la nuit homosexuelle. Et je suis la plus jeune, j'ai 18 ans. Et là, je fréquente des femmes qui sont beaucoup plus âgées, 80, 85, 70, 50. Aujourd'hui, j'ai 54 ans, donc je me dis, non, elles étaient quand même très jeunes. Mais à 18 ans, ça me semblait... Ouais. Et puis, de tous milieux sociaux, c'est-à-dire que je fréquente la nuit. Et dans la nuit, c'est très intéressant parce que on a une autre personnalité. Je ne sais pas si on est plus vrai ou si on est plus faux, mais c'est un second territoire. Et je fréquente des femmes que je n'aurais pas fréquentées en plein jour. Je grandis beaucoup plus vite et j'apprends là. Pour le coup, je suis plus plagiaire, mais j'apprends mon métier d'écrivain parce que je suis au bar et je les regarde et je les raconte.
Alors du Pulp, vous allez au Katmandou que vous quittez pour le studio A. On est en 1987. La jeune Elsa chante « T'en vas pas », la LAN réponse retrouvera. C'est les débuts de Vanessa Paradis et Joe le Taxi. Samantha Fox et ses Touch Me sur elle. On dansait toute la nuit, on se promettait. Voyage, voyage, mon Dieu, quelle crête cette désirless. Et Black avait une belle banane et ça, c'était Wonderful Life. Découvrez à l'époque Nina Borabroui, celui de la nuit lesbienne. Vous l'avez raconté dans Poupée Bella ou dans Les Hommes désirent naturellement savoir. C'est ce qui en ressort aussi, c'est une forme de violence quand même dans les rapports.
Oui, amoureux. Parce que je crois qu'à l'époque, fréquenter pour une femme un club réservé aux femmes était vraiment une forme de révolution. On est pourtant dans les années 80, mais je me souviens que ces femmes rasaient les murs. Quand elles entraient dans l'endroit, c'était il fallait pas qu'un homme vous voie ou un voisin ou une connaissance. Il y avait quelque chose de l'ordre presque de la prohibition qui était assez excitant. Et finalement, quand on rentrait dans cet endroit, l'amour devenait presque un acte politique, ou en tous les cas devenait un destin. C'était important que l'amour prenne, parce que tout d'un coup, on devenait soi. On quittait le mensonge du grand jour. On quittait ces femmes parfois avaient des doubles vies, parfois elles étaient mariées. Il y avait même des princesses arabes qui venaient. Il y avait des actrices. Il y avait des anciennes prisonnières. Il y avait voilà toutes sortes de corps de métiers. Mais tout d'un coup, la seule chose qui nous réunissait, c'était l'amour. Il fallait et les amours étaient électriques. Imaginez entre femmes, c'était des passions. Dévorante, il y avait pas mal de bagarres. Moi, j'ai vu des femmes se faire casser des bouteilles de champagne sur la tête, des bagarres au tesson de bouteille. Les femmes, la violence, elle est aussi du côté des femmes. Hein. Les femmes ne sont pas uniquement la douceur, mais parce que aussi, il y avait un enjeu. C'est-à-dire que être avec quelqu'un, c'était trouver la voie de sa vie. Mais c'est pas du tout dans une boîte de nuit qu'on trouve quelqu'un. Enfin, si, ça peut arriver, mais souvent, ça menait à l'échec parce que c'était la nuit, parce que pour certains, il y avait beaucoup d'abus. Moi, quand j'ai écrit « Tous les hommes désirent naturellement savoir » sur cette bande du Katmandou, je ne savais pas, mais beaucoup ont disparu. Ça m'a fait d'ailleurs une immense peine, dont un personnage principal, parce qu'elle se droguait trop, parce qu'il y avait une espèce d'outrance. Parce qu'une vraie désespérance, je crois que chez ces femmes, et moi j'étais plus jeune heureusement, mais chez ces femmes il y avait déjà trop d'années de secrets, trop d'années de rejet, trop d'années de haine des autres. C'était compliqué de vivre juste son homosexualité, ce n'était pas rien.
L'écriture vous a consolée à ce moment-là, vous ?
Je crois que moi, je me suis... En fait, je trouve quelque chose aujourd'hui que c'est une position un peu... qui est pas très jolie. En fait, je m'étais dit, pour me faire aimer et pour qu'on accepte mon homosexualité, je vais écrire et je vais publier et je vais... comme ça, c'était parce que j'avais honte de moi, je crois.
C'est-à-dire
que...
pour être homosexuel, mais pas que ? C'est ça ?
C'était un peu ça, ouais. C'était pour me faire pardonner mon homosexualité parce que j'étais jeune. Et tous les jeunes homosexuels, passe par cette expérience qui est épouvantable, c'est le rejet de soi, la haine de soi et sa propre homophobie. Et en fait, moi j'avais pensé naïvement, alors moi j'avais toujours écrit bien sûr, hormis ouais. cet épisode de plagiaire adolescente, amoureuse et un peu idiote, mais dès 8 ans j'ai su que dans l'écriture il y avait une liberté, une force, et moi cet enfant enfermé de l'intérieur, évidemment l'écriture allait m'aider à m'épanouir et aller vers la liberté. Mais lorsque je suis homosexuelle, d'être publiée, d'écrire et que ça existe, de publier un roman, est aussi, j'en ai vraiment conscience, une forme de respectabilité.
Alors vous y jetez tous les soirs, tous les jours dans cette écriture, vous écrivez, puis un jour à 24 ans, vous postez votre tout premier manuscrit. Un éditeur, Gallimard, vous répond, il vous publie en étant 91 et La Voyeuse interdite est un carton.
Mais aussi un événement littéraire, le prix du livre Inter, Patricia Martin.
Oui, le secret a été bien gardé depuis hier. Monsieur le président du jury Jean d'Ormesson, c'est à vous de lever le voile.
Eh bien, le prix du livre Inter 1991 a été décerné au troisième tour de scrutin à la majorité relative de 12 voix sur 26 à La Voyeuse interdite de Nina Bouraoui.
Je crois qu'on peut l'applaudir.
Chez Gallimard.
Nina Bouraoui, bravo. Vous l'avez appris quand exactement, cette heureuse nouvelle? Parce que les délibérations ont donc eu lieu hier, toute la journée. Alors vous êtes restée longtemps près de votre téléphone en espérant qu'il sonne?
Oui, je l'ai appris à 19h15, précise, hier soir.
Vous vous y attendiez?
Je n'y pensais pas du tout. Je ne voulais pas y penser.
Vous n'avez pas passé la journée à vous dire, est-ce que je vais recevoir le coup de téléphone?
Non, pas du tout. Je me suis promenée toute la journée. En plus, c'était la fête des mères, donc c'était un merveilleux cadeau pour ma mère. Et je suis rentrée à vers 19h, et puis un quart d'heure après, le téléphone sonnait.
Le livre se vend à 140 000 exemplaires, c'est un record pour un premier roman. Ce livre raconte une histoire d'enfermement, là encore celui d'une jeune musulmane de 12 ans, piégée par les traditions. Est-ce qu'elle vous a piégé à votre tour? C'est-à-dire, c'est évidemment que c'est merveilleux, 140 000 exemplaires, évidemment que c'est à refaire, je suppose que vous le refaites. Mais est-ce qu'il y a un revers à cette médaille-là?
Oh, je l'ai bien vécu parce que c'était très joyeux. Le succès, c'est magnifique. Ça donne de l'amour aussi. On reçoit de l'amour. Mais j'avais conscience. En fait, ça m'a assise dans ma certitude que je voulais faire ce métier. Mais j'avais le pressentiment que ce métier aussi est fait de grandes victoires, mais aussi d'échecs. C'est comme ça. Enfin, d'échecs, de semi-échecs. J'ai eu de la chance, hein, mais jamais de grands échecs. Mais en tous les cas, le succès, il est plutôt... il faut savoir l'apprécier quand il arrive. Et puis, écrire, c'est long, c'est lent, c'est parfois laborieux. Mais finalement, je savais... j'ai pas eu de sentiment d'imposture, mais j'étais pas non plus super orgueilleuse, je me disais pas c'est normal. Pour moi, c'était dans mes rêves, dans mon destin, dans mon ADN, dans mon identité. Je savais que ma place dans le monde, elle existait parce que j'étais un être qui écrit. Alors, avec du succès ou non, pour moi, c'était pas si grave. Pour moi, le succès, je me suis dit, j'ai fait déjà une grande part. Je suis, voilà, on saura qui je suis. J'aurai peut-être déjà un lectorat pour le deuxième roman, le troisième roman, etc. Et puis après, on se rend compte que finalement, vos lecteurs sont assez fidèles, puisque mes lecteurs de La Veilleuse interdite sont toujours mes lecteurs. Alors peut-être ils ne sont pas toujours aussi nombreux, mais en tous les cas, ils sont là. Enfin, moi, je reçois toujours du courrier de ceux qui me lisaient à mes tout débuts. Mais mon lectorat est fidèle. C'est ça qui est très, très touchant. Il a vieilli en même temps que moi. Et puis, il y a eu des enfants, et maintenant, les enfants de ce lectorat me lisent. C'est-à-dire que j'ai des lecteurs très jeunes, de 16 ou 17 ans.
En quoi est-ce que vous avez changé? Vous écoutiez cette archive en souriant et vous disiez « mais j'étais un bébé ».
Oui.
Vous n'êtes plus un bébé. En quoi est-ce que vous avez changé?
Parce que je vois, j'entends ma voix, je sais que je suis timide et puis de qui je parle en premier? De ma mère. Si je parle que de ça. Je dis c'est la fête des mères, je me suis promenée. Et c'est vrai, je m'étais promenée avec ma mère. On était allé au Palais Royal, je me souviens très bien. Mais je sens, je sens dans ma voix une grande timidité parce que pour moi, en plus à 24 ans, j'en paraissais 15. Je faisais vraiment gros bébé. J'étais encore très couvée par mes parents. Et je vois Jean d'Ormesson, je vois Patricia Martin, puis tous ces... je crois qu'il y avait Yvan Levaille aussi, et c'était très impressionnant et aussi très chaleureux. Et je me suis dit, Radio France, c'est une maison pour moi, je le sais.
Vous êtes ici chez vous, en tout cas. À ce moment-là, vous écrivez des romans qui sont... assez loin de vous. Et puis petit à petit, ça se rapproche de vous et vous, vous adoptez une écriture qui est de plus en plus intimiste. Vous allez sur les terrains de l'homosexualité, de l'amour, du désir, etc. Mais quand on vous interroge, j'ai lu un certain nombre d'interviews, vous dites que vous êtes trop dans votre bulle pour vous autoriser une prise de position, même une écriture politique. C'est plus du tout le cas aujourd'hui.
Non, c'est plus du tout. Mais parce qu'aussi, à l'époque, moi, je suis confrontée à un énorme problème. C'est que je n'assume pas celle que je suis. Je ne dis pas qui je suis. Et surtout, de livre en livre, j'écris des livres assez fermés, qui sont très poétiques, L'âge blessé, Le jour du séisme, Le bal des murènes. Mais je n'arrive pas encore à dire celle que je suis, c'est très compliqué. En fait, j'ai très peur. Je me dis que si je parle de mon homosexualité, il va m'arriver des bricoles. Mais c'est du fantasme, hein. C'est parce que je ne m'assumais pas du tout. Et finalement, je suis allée voir un psy pour ça. Ouais. Pas du tout pour mes tocs, j'en avais plein des tocs. Hein.
Mes peurs. Il faut toujours en garder quelques-uns.
Oui, ça va mal. C'est un signe de bonne santé, je trouve, de bonne santé mentale. Mais il y avait plusieurs choses comme ça, de zones d'ombre dans mon enfance, mon adolescence. Et en fait, non, ma première parole, c'était justement libérer ce langage. Je suis allée voir une psy pour lui demander de m'aider à assumer, à être aussi un écrivain qui pouvait parler d'homosexualité. Et puis après, je me suis tellement engagée et j'ai tellement milité à ma façon dans mes livres.
Bah, hein. C'est-à-dire que pour le coup, écrire, c'est se bagarrer, du coup. C'est combattre.
C'est se bagarrer, c'est parler des invisibles, c'est parler des plus fragiles. Et ouais. Puis c'est se mettre à nu, parce que moi, je me souviens, Garçon manqué, c'était en 2000. Nous n'étions pas si nombreuses en France à parler de notre homosexualité si frontalement. Et tout d'un coup, je me retrouvais à la télévision, à la radio, devant des journalistes qui me disaient « Alors, Nina Bouraoui, vous êtes homosexuelle ?» Et il fallait le tenir quand même. Ouais. Il fallait pouvoir y répondre avec cette injustice aussi de se dire on ne demanderait pas, on ne poserait pas cette question à un auteur hétérosexuel, mais aussi avec la conscience qu'il fallait le faire pour les autres. Moi, j'avais la parole, j'avais le stylo et le papier, j'avais tout d'un coup la publication. Il fallait que je parle pour les autres.
Et comme ces libertés-là ne sont jamais définitivement acquises, s'il vous plaît, continuez de vous bagarrer, de mettre la plume dans la plaie comme vous le faites, parce que c'est étrange, avec vous, ça peut surtout faire beaucoup de bien. Jungle, Talk About It, comme tous les vendredis, Djouba Kaïto platine de cette émission. Vous en retrouverez toutes les références, bien sûr, sur franceinter.fr, à la page d'Unique en son genre, pile à l'endroit où vous pouvez nous podcaster, comme quoi la vie est bien faite, parfois.
Unique en son genre, Julia Foyce.
Si bien faite, d'ailleurs, qu'ici on peut tout imaginer, le masculin, le réinventer, le féminin, le redessiner un peu comme on veut, et surtout tant qu'on veut. Nina Bouraoui, vous nous disiez qu'enfant vous vouliez être un garçon. Aujourd'hui, est-ce que parfois vous voudriez encore être un homme ?
Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors c'est très étrange, parce que depuis que j'ai passé la cinquantaine, c'est-à-dire depuis que je ne peux plus donner raisonnablement vie à un enfant, je me suis jamais sentie aussi femme. C'est-à-dire que j'occupe aujourd'hui pleinement ma féminité, depuis qu'il n'y a plus ce regard, peut-être qui est moins lourd, mais à une époque, souvent, t'es pas une mère, donc t'es pas vraiment femme. Alors qu'on sait très bien que féminité et maternité sont distinctes, ou peuvent se compléter, mais on peut être une femme sans avoir été une mère. Et c'est marrant, je trouve que plus j'avance dans l'âge, plus j'occupe cette féminité, plus je l'aime, plus je la trouve belle. Et je trouve qu'en plus, il y a une sorte d'événement entre les femmes. Je crois que c'est Gisèle Halimi qui disait la prochaine révolution, elle sera féminine, mais quand les femmes seront solidaires les unes des autres. Et je trouve que depuis que quand même une parole s'est libérée, je trouve qu'elle est entendue et écoutée, elle est moins moquée qu'avant, elle est plus prise au sérieux, et je crois sentir que les femmes sont plus solidaires entre elles, qu'elles ne font pas la répétition de leur propre douleur sur leur petite fille, parce que c'est ça souvent qui arrive. Et donc, je suis fière d'être une femme, je suis heureuse.
Et alors, s'il y avait un objet qui racontait votre façon à vous d'être femme, ce serait quoi ?
C'est mon stylo, parce que mon stylo, c'est un stylo 4 couleurs, je précise, pour plusieurs raisons. Parce qu'un stylo, c'est la liberté, c'est celui qui me permet depuis toujours de m'exprimer, de vivre dans tous les sens du terme, même économiquement, puisque écrire est mon métier. 4 couleurs parce que tous mes livres sont très préparés à l'avance, je fais des plans très détaillés. L'écriture agit comme une apparition au bout de 10 mois, elle apparaît pendant 2 mois comme une... Puisque Madame Ackley fait beaucoup de photos Polaroid, c'est vraiment ça. Vous vous souvenez ces pellicules Polaroid, comment les personnages et les couleurs apparaissent ? Eh bien, l'écriture, elle apparaît après 10 mois de plans, de flèches, de dessins, avec 4 couleurs. tout est entremêlé, mais tout est aussi à sa place, tout est numéroté. Les scènes, les lumières, les personnages, les musiques, les rebondissements, la fin, le début. C'est-à-dire que mes livres ne sont jamais écrits au hasard. Et l'écriture apparaît comme la grâce... dans les 2 derniers mois, avant de rendre mon livre. Alors, il faut être très zen, aussi bien moi que mon éditeur qui attend impatiemment.
Et si de ce stylo, vous nous écriviez une carte de vœux, vous adressiez une carte de vœux à celles et ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que vous nous souhaitez ?
Alors, je crois que...
nous tous, vous comprise. Hein.
Oui, mais pour nous tous, je crois qu'il y a un seul mot qui résume tout, c'est le mot douceur. Mmh. La douceur dans le travail, la douceur dans la famille, la douceur dans son propre corps, la douceur en amour, la douceur avec ses amis, la douceur avec cette nature que nous avons tant offensée. Je trouve que la douceur, ce sont des liens d'amour multiples et infinis.
Alors allez, un peu de douceur, voire pas mal de douceur pour nous toutes et tous. Merci infiniment Nina Bouraoui d'être venue nous voir.
Merci Julia.
Satisfaction, votre dernier roman est publié chez Jean-Claude Lattès. À la technique ce soir, Clément Berman à la réalisation, Marianne Écrimbeau, attachée de production, Ophélie Vivier. Merci à toute l'équipe, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.